divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huissement et Nelly Ben-Simon. Annabelle Crémer-Lecointre, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux éditeurs et aux éditrices.
Vous êtes agrégée de SVT, professeur de collège en Alsace, et vous avez publié chez Delachaux et Nestlé un ouvrage que nous ne pouvions ignorer à l'Union rationaliste, intitulé « La science à l'épreuve des mauvaises langues, 10 idées reçues pour bien comprendre la démarche scientifique ». Votre ouvrage s'inscrit et partage notre combat contre la désinformation, les fausses nouvelles et les attaques illégitimes contre les discours scientifiques. Je crois que l'idée de ce livre est née en vous conjointement pendant le Covid, puis ou avant même, pendant vos cours.
Oui, ça a déjà démarré durant mes cours, en fait, parce que j'entendais ces idées reçues de la bouche même de mes élèves. Et puis, la pandémie a ravivé en moi, évidemment, l'envie d'écrire ce livre, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment pas mal entendu parler de sujets scientifiques, ce qui est une bonne chose, mais pas toujours avec discernement ni en connaissance de cause. Et ça m'a rappelé vraiment que si beaucoup d'entre nous faisons confiance à la science, il y a encore des personnes qui sont persuadées qu'elle nous ment ou qu'elle fomente des complots. Et en fait, je crois qu'on la connaît très très mal. Et c'est pas étonnant parce qu'on parle souvent des résultats de la science, on parle des applications de la science, mais on parle très peu de ceux qui la font, ceux et celles qui la font, qui la pratiquent, et encore moins de sa méthode, qui est pourtant extrêmement, fiable, rigoureuse et très exigeante. Et à travers ces idées reçues, j'avais envie de revenir un petit peu au fondement épistémologique de la science, parce que je crois que c'est vraiment ça qui est le gage de sa fiabilité.
Mmh. Votre idée, c'est de mettre en avant les caractéristiques de la science et de les opposer à ce qui n'est pas elle. Opinion, rumeur, anecdote.
Oui, il y a de ça en partie. Effectivement, une rumeur, ça n'est pas un savoir ou une connaissance scientifique, parce qu'elle n'est pas vérifiable. On ne sait même pas d'où elle vient. Une anecdote, c'est trop personnel. La science, elle doit toucher, elle produit des connaissances qui sont universelles et partageables. L'opinion, alors elle peut se justifier en partie, l'opinion, si elle s'appuie sur des savoirs, mais elle est aussi faite de nos valeurs, de nos émotions. Et puis, il y a effectivement la différence importante entre un savoir et une croyance. Une croyance ne se justifie pas. Elle repose sur le principe d'autorité et sur la confiance. Donc ça, ce sont des caractéristiques de la science, et qu'effectivement, elle doit se justifier. Et puis, elle s'adresse à toutes et à tous. Elle a une visée universelle.
Mais précisément à l'époque des réseaux sociaux et de ce que vous appelez, en reprenant le concept à d'autres, l'infobésité ou le nuage informationnel, je crois que l'expression est d'Edgar Morin.
C'est
là.
Bien ça.
Est-ce si facile de s'opposer à la disqualification du discours scientifique ?
Alors, il y a effectivement deux choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord ce nuage informationnel, il y a une avalanche, un flot d'informations. Ça, il n'y a pas de doute, elle circule. Mais ce qui est difficile dans ce nuage informationnel, c'est de trouver l'information éclairante qui va éclairer la pensée de tout citoyen et toute citoyenne. Et ça, je rappelle quand même que c'était le projet politique et social de Nicolas de Condorcet à la fin du XVIIIe siècle. Alors, trouver cette information éclairante, effectivement, ça relève souvent du parcours du combattant. Et puis, il y a les réseaux sociaux et toute cette dérégulation du marché de l'information sur la toile s'y mêle des informations, mais aussi de la désinformation, de la malinformation, de ce qu'on appelle des fake news, et puis aussi des croyances, des opinions.
Sans aucune hiérarchie, sans aucun moyen de hiérarchiser.
Non seulement sans aucune hiérarchie, mais pire encore, ces désordres font apparaître qu'en réalité, nous sommes, on va nous proposer des informations le plus souvent qui vont aller dans le sens de nos idées préconçues. Donc on nous enferme finalement dans une petite bulle. D'ailleurs, les bulles de filtrage sur la toile sont destinées à cela. Et puis, quand on cherche une information sur la toile, bien souvent les réponses qu'on va trouver, elles sont classées par popularité d'abord et non pas par pertinence. Et malheureusement, le premier mode d'information des jeunes, et c'est pour ça qu'ils sont le plus confrontés à des pseudo-sciences, à des sciences occultes, à des activités de mancie, ce sont les jeunes parce que c'est le premier moyen d'information aujourd'hui des jeunes. C'est la toile.
La toile.
Et les réseaux sociaux en particulier.
Et alors ça, l'école répond à ce désert où les professeurs ne sont pas, ou pas ?
Alors, elle répond assez peu, à mon avis. Il y a ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information, qui est réalisée par les professeurs documentalistes dans les établissements scolaires, mais ce sont en réalité très peu d'heures. Et moi, j'avais dû mener, justement, pour exercer davantage les élèves à l'esprit critique et leur parler du fonctionnement réel de la science, de montrer comment se construit une information journalistique, comment se construit un savoir. J'avais décidé de mettre en place un enseignement pratique interdisciplinaire. Et je crois que ça à ce sujet-là, et je pense qu'on devrait l'inscrire dans les programmes scolaires.
Institutionnellement.
Parce que pour aider les élèves à faire le tri.
Au fond, les professeurs sont d'un côté, les élèves de l'autre, et nous ne sommes pas en train de commenter les erreurs, les fake news sur la toile. Jamais nous ne faisons ça.
Très peu. Et effectivement, aujourd'hui, l'école est en concurrence avec d'autres formes d'information. Et donc, je pense que c'est bien de regarder de ce côté-là pour aider nos élèves à davantage se recentrer sur et comprendre pourquoi les savoirs et les connaissances qu'ils apprennent à l'école sont importants pour se construire en tant que citoyen.
Et est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a justement entre la forme livre, je pense à ce très beau livre qu'il faut recommander, offrir, mais qui est précisément sous la forme papier, bien que très illustré et très attrayant, il nécessite une lecture attentive, une volonté de s'instruire et de savoir. Alors, est-ce que vous avez pensé à le mettre sur le net ou à parler autrement aussi ?
Alors j'y pense de plus en plus parce qu'il y a 15 jours de ça, j'étais dans un lycée justement où je donnais une conférence sur ce livre-là et j'ai des élèves qui sont des lycéens et lycéennes qui sont venus me trouver et qui m'ont dit « mais c'était vraiment super, on a appris beaucoup de choses, mais franchement votre livre, on ne l'aurait pas acheté. Pourquoi vous ne faites pas des blogs ? Pourquoi vous ne faites pas des petites capsules vidéo sur YouTube ?» Et donc j'y pense de plus en plus parce que effectivement c'est quand même ce que préfèrent les jeunes aujourd'hui, même si je n'abandonne donnerait pas le format papier pour autant.
Je comprends. Alors, vous avez repéré dans votre ouvrage 10 idées reçues sur la science. Nous allons les lister pour que les auditeurs les connaissent. Alors, première idée reçue que vous décryptez, décortiquez, critiquez. La science est une affaire de génie. Deuxième, s'il n'y a pas d'expérience, ce n'est pas la science. Troisième, une hypothèse, c'est prouver un truc qu'on a déjà en tête. Quatrième, une théorie scientifique n'est pas qu'une idée. Cinquième, la science produit des informations comme les autres. Ensuite, les scientifiques se trompent, on ne peut pas leur faire confiance. Ensuite, les experts scientifiques sont tout puissants et corrompus. La science, c'est la bombe atomique. Tout le monde a son mot à dire sur la science. La science et la religion font bon ménage. Alors, on aurait envie de vous entendre sur chacune de ces assertions parce que, de fait, ce sont des idées reçues qu'on entend, réentend, etc. Je vais vous demander d'en choisir trois et de les décrypter.
Très bien. Alors, je vais choisir celles qui peuvent, qui pour moi sont les plus pernicieuses parce qu'elles peuvent alimenter des discours idéologiques. Donc, je vais choisir la science produit des informations comme les autres. C'est une idée reçue. Voilà, c'est une petite musique relativiste qu'on entend assez régulièrement. Alors, dans l'ouvrage, moi, je compare l'information scientifique à une information que les gens connaissent plutôt bien, l'information de type journalistique. Évidemment, d'abord, ça suppose de définir ce que c'est qu'une information. On en a parlé tout à l'heure, hein, ça n'est pas évidemment une rumeur, une anecdote, une opinion, ni une croyance. Mais la différence entre une information de type scientifique et une information de type journalistique, la grande différence, c'est le temps long et le processus éminemment exigeant pour construire des informations de type scientifique. Et puis, quand on est journaliste, effectivement, il faut produire très vite de l'information. Parfois, c'est pour produire du scoop, pour amener quelque chose assez rapidement. C'est très difficile de revenir ensuite sur l'information une fois qu'elle a été publiée. On ne peut plus la corriger, à moins de poster un erratum, mais c'est presque déjà trop tard. Et très souvent, les journalistes aussi travaillent de façon assez isolée, là où les scientifiques travaillent de façon collective.
En équipe,
exactement. Et c'est surtout que les informations scientifiques sont de trois niveaux. En fait, dans l'information journalistique, on parle du fait journalistique et c'est un peu l'aboutissement. En science, le fait scientifique, c'est le point de départ d'une chaîne de plusieurs types d'informations. En fait, un fait scientifique, c'est le résultat, c'est l'interprétation, pardon, d'un résultat qui aura été obtenu par une démarche scientifique. Et c'est plusieurs faits ensemble, liés de manière cohérente, validés par les pairs, qui vont constituer un savoir. Et de la même manière, ce sont plusieurs savoirs liés entre eux de manière logique, validés par les pairs, qui vont constituer une connaissance. Donc la connaissance, c'est, on pourrait dire, une information à haut niveau de preuve. Donc voilà, une information scientifique, on comprend bien que c'est pas une information qui se produit en un claquement de doigts. Après, la deuxième idée reçue dont j'ai envie de parler, les scientifiques se trompent, on ne peut pas leur faire confiance. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la première partie de l'assertion. Les scientifiques se trompent, mais oui, bien sûr qu'ils se trompent. Et c'est bien parce qu'ils admettent qu'ils se trompent qu'on peut leur faire confiance. Alors ça, c'est un peu difficile à comprendre. Mais
c'est l'idée de l'erreur rectifiée, hein, chère à Bachelard.
Exactement, et justement, elle n'est pas dogmatique. Et pour moi, ça, c'est un sacré gage de confiance. En fait, l'erreur, elle est au cœur même de la construction et de la validation des savoirs. Pour autant, c'est pas parce qu'on se trompe que qu'on pourrait dire que la science, elle est brouillonne ou qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il y a des règles en science. Des règles du jeu. Alors, il y en a un certain nombre, je ne vais pas toutes les lister, mais d'abord, elle est collective et il me semble que justement, la subjectivité interpersonnelle, le fait de prendre en compte les idées de l'autre dans son jugement, permet de tendre vers l'objectivité. Donc ça, c'est aussi une différence entre n'importe quelle information et l'information scientifique où on tend quand même vers l'objectivité à travers le travail collectif. Elle est aussi cumulative parce qu'elle s'appuie évidemment pour avancer sur les connaissances du passé. Elle est corrective, ça veut dire qu'effectivement, on peut corriger un fait, un savoir, une connaissance, l'amender parfois même. Et puis, elle est non dogmatique, évidemment. Et puis, elle met en avant une qualité importante qui est le scepticisme initial sur les faits. Un scientifique doit se défier de lui-même, hein, ou une scientifique doit se défier de lui-même, il doit douter. Alors, douter, ça ne veut pas dire douter de tout. C'est un doute modéré. Alors évidemment, personne ne doutera qu'il est impossible pour des humains de traverser les murs. Ça, c'est un fait important. Et puis, privilégier l'exhaustivité des données, ne pas choisir les données qui nous arrangent.
Oui. Alors, peut-être que nous n'allons pas développer le troisième point, parce que vous venez de faire paraître, en collaboration avec Guillaume Lecointre, un nouveau travail tout aussi passionnant que ce premier ouvrage, intitulé « Démystifier le vivant, 36 métaphores à ne plus utiliser » aux éditions de la Martinière Jeunesse. Et dans ces deux ouvrages, je voulais signaler aux auditeurs qu'Arnaud Raphaëlian vous accompagne dans le travail en illustrant de façon très piquante vos propos. Est-ce que c'est important aussi pour vous que vos propos soient accompagnés d'illustrations très amusantes?
Oui, c'est très important. Et puis, il a beaucoup de talent, Arnaud Raphaëlian. Il comprend très bien le fonctionnement de la science, l'épistémologie. Et donc, ça apporte une touche d'humour, pardon, et puis de légèreté aussi, parce que le discours est parfois peut être, ambitieux. Et ça permet un petit peu de détendre aussi l'atmosphère et puis d'accompagner de façon tout à fait pertinente les textes.
C'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Annabelle Lecointre, je vous remercie.
Merci Emmanuel.
Je rappelle le livre d'Annabelle Crémer-Lecointre, « La science à l'épreuve des mauvaises langues, 10 idées reçues décryptées pour bien comprendre la démarche scientifique » paru chez Delachaux et Niestlé. Je dis un mot sur la nécessité de rejoindre l'Union rationaliste, cette association historique qui est née autour de Paul Langevin lors des années 30. Dans le combat antifasciste, elle défend la laïcité, elle lutte contre toute forme de désinformation dans la droite ligne de ce qui a été en question pendant l'émission. Elle promeut l'esprit et les méthodes des sciences. Comme notre combat a en ce moment besoin de renfort, si vous voulez nous rejoindre, participer à nos réunions, à nos colloques et lire nos publications, je vous donne rendez-vous sur notre site et je vous invite à agir avec nous. Je remercie sur France Culture Dali Yaha, Luc-Jean Reynaud et Claire Poinsignon qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.